Comment tout ce que nous avons dit sur les gestes, tout cela prend toute sa signification dans le Christ. Nous reviendrons tout à l'heure sur les gestes du Christ qui commandent les sacrements. Et comment, de ces gestes, l'Église, je dis bien l'Église, en a extrait les sacrements. C'est ça. Il est dit dans le Concile de Trente, il faut quand même tenir compte de l'enseignement actuel de l'Église, et ceci, ça demeure, dans le Concile de Trente, il est dit que tous les sacrements sont institués par le Christ. Vous voyez toutes les thèses apologétiques qui ont été écrites là-dessus. Parce qu'en face des protestants, qui disaient, mais pas du tout, les sacrements, c'est l'Église qu'ils avaient. Donc, sacrement de l'Église. Et l'Église dit, pas du tout, sacrement du Christ. C'est intéressant comme plaidoyer. Oui, on se renvoie la balle. Sacrement de l'Église. Les protestants disent ça. Et comme les protestants ne rejettent ce que l'Église a déterminé en considérant que c'est un manque de fidélité par rapport à la parole de Dieu, autrement dit, ce que dit l'Apocalypse, tout ce que vous ajouterez, tout ce que vous rejetterez, tout ce que vous retrancherez, ça ne va plus. Donc il faut la parole de Dieu dans toute sa force. C'est dit du côté de la parole, ce n'est pas dit du côté des gestes. Pourquoi y a-t-il cette souplesse plus grande du côté des gestes que du côté de la parole? Comment se fait-il ce passage? C'est vrai, du côté de la parole, qu'est-ce que l'Église a ajouté? La théologie. Du côté des gestes, qu'est-ce que l'Église a précisé? Les sacrements. C'est ça que je crois qu'il faut saisir. Parce qu'il y a quand même un passage, on ne peut pas nier. Le passage du Christ à l'Église, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, Jeanne d'Arc dit, pour moi, croire à l'Église ou au Christ, c'est tout le même. Hein? Jeanne d'Arc dit ça. Est-ce que c'est la même chose, croire au Christ ou croire à l'Église? Vous savez qu'il y a eu des grandes thèses là-dessus. Une foi ecclésiale et une foi théologale. Hein? Alors, est-ce qu'on peut faire ce genre de distinction? C'est des questions qu'on vous posera. On m'en a posé plus d'une fois en face de certaines conférences données à Paris, je me souviens très bien, certaines personnes qui me disent, eh bien tel conférencier a dit, faites toujours attention de bien distinguer votre foi dans le Christ et votre foi dans l'Église. Alors cette personne me posait la question en me disant, est-ce que c'est juste de dire ça? Ou est-ce que c'est la même foi? Est-ce que c'est dans la même foi que vous croyez dans l'Église ou vous croyez dans le Christ? Hein? Faites votre petit examen de conscience. Hein? Et voyez bien le traité de la foi. Avec l'objet formel de la foi. Est-ce que c'est la même foi? Ou est-ce que c'est deux choses différentes? Deux domaines différents? Croire dans l'enseignement de l'Église ou croire dans la parole de Dieu, est-ce que c'est la même chose? Croire dans les sacrements et croire dans les gestes du Christ, est-ce que c'est la même chose? Vous voyez, posez-vous la question de cette manière-là, parce que c'est important. C'est important pour nous, vitalement. Et ce sera important pour vous, au point de vue éducatif des autres. Là, il y a une pastorale. Ça, c'est bien évident, puisqu'il s'agit d'éduquer la foi. Il s'agit de faire comprendre ce que c'est que la foi. C'est pas si commode que ça de répondre directement à la foi, c'est qu'il y a eu des thèses différentes. Alors, est-ce que la foi théologale n'est-elle pas unique, indivisible? On ne peut pas faire un choix qui relève de nous. Tout ce qui est révélé dépend de la foi. Puisque l'objet de la foi, c'est la raison formelle de la foi, c'est justement Dieu qui se révèle à moi. Dieu qui me parle et qui se révèle à moi. Alors, Dieu qui fonde l'Église, le Christ qui fonde l'Église, fait que le regard sur le Christ et le regard sur l'Église, c'est la même foi. Il y a des propositions différentes, N'est-ce que vous changez de vitesse quand vous dites le credo? Credo. Est-ce que vous changez de vitesse plusieurs fois? Fois numéro 1, la très sainte Trinité. Fois numéro 2, le Christ. Fois numéro 3, l'Église. Fois numéro 4, la résurrection éternelle. Fois numéro 5, le purgatoire. Fois numéro 5, l'enfer. Fois numéro 6, le purgatoire. Alors vous auriez comme ça des degrés différents de la foi et vous auriez des changements de vitesse. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Il y a des matières différentes, il y a des difficultés différentes, c'est bien évident. Et ça, c'est ça qu'on appelle les articles de foi. Les articles de foi, c'est parce qu'il y a des difficultés différentes. Mais c'est la même foi dans son nous-mêmes. Croire au Christ et croire en l'Église, c'est la même foi. Et Jeanne d'Arc avait raison. De dire que c'est la même foi. Pour moi, c'est tout un croire au Christ et croire à l'Église. En comprenant bien l'Église dans son mystère, pas l'Église regardée sociologiquement, n'est-ce pas? Pas regarder l'Église telle que les journalistes peuvent nous en parler. C'est l'Église vue dans son mystère profond, en sachant très bien que Dieu se sert des hommes et que les hommes peuvent faire des erreurs. Alors que l'Église est sainte, alors que l'Église est une, alors que l'Église est infaillible. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Alors, il s'agit de saisir ça. Je ne reviens pas sur les gestes, mais je dis qu'il y a un geste capital sur lequel tout va reposer, c'est l'institution de l'Eucharistie. Et je crois qu'il faut partir de là. Autrement, nous ne comprenons pas et ne comprendrons rien si nous voulons saisir. Je prends, vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans cette perspective que le Concile nous demande. L'aspect de l'économie divine. Si je reprends les sacrements du côté de l'économie divine, comment je vais regarder les sacrements? L'institution de l'Eucharistie. Vous voyez la différence avec l'ordre dans saint Thomas. En théologie scientifique, eh bien, il prend le point de vue qu'est-ce que c'est que le sacrement, donc l'étude du signe, l'étude de l'instrument. Non, je ne fais pas ça en théologie selon l'économie divine. Je vais regarder le moment chaud de l'institution de l'institution des sacrements et d'église. Quel est le moment, l'acmé, le sommet, à partir duquel tout le reste va se comprendre? C'est l'institution de l'Eucharistie. C'est dans l'institution de l'Eucharistie que, de fait, nous sommes en présence de Jésus, législateur, nouveau législateur, législateur au sens très fort. Et ceci, nous le voyons bien, puisque c'est vraiment à ce moment-là que Jésus transmet une volonté dernière, son testament. Et ce repas est juste avant sa mort, pour que, de fait, sa mort intervenant, le testament prenne toute sa valeur. L'Épître aux Hébreux, hein. Jamais l'oublier. C'est là où il est médiateur d'une alliance nouvelle. Et il faut que le geste du législateur soit parfaitement libre. C'est le dernier acte de la vie apostolique de Jésus, où Jésus est parfaitement libre. Il est entièrement libre dans ce mystère de l'institution de l'Eucharistie. Or, dans le mystère de l'institution de l'Eucharistie, qu'est-ce que fait Jésus? Il y a la présence du Christ. Comme législateur, il est présent. Et il réalise au cours d'un repas, alors le premier repas, et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a la Pâque de l'Ancienne Alliance, qui est réalisée. Donc Jésus renoue avec tout le mémorial de la Pâque ancienne, et c'est au terme de cette Pâque que Jésus réalise quelque chose de nouveau, le mystère de l'Eucharistie. Je crois que c'est très important, ça. Parce que ça fait que tout ce qui est de l'Ancien Testament, et nous y reviendrons après, nous essaierons de comprendre comment dans l'Ancien Testament, la Pâque est comme le lieu central qui lie toute l'Ancienne Alliance. Parce qu'il faut comprendre, autrement on ne comprendra pas, on ne comprendrait pas comment, au niveau de l'économie divine, on est au sommet, on est au terme d'un mémorial qui va se changer dans quelque chose de nouveau. Jésus donc agit librement, personnellement, dans un repas religieux et pascal, la Pâque. Et Jésus va, par un geste et par une parole, réaliser le sacrement par excellence. Vous voyez bien que le sacrement par excellence, c'est un geste du Christ. C'est vraiment un geste du Christ. C'est Jésus au milieu des apôtres qui prend le pain et qui dit ces paroles de la consécration. Il y a une parole et un geste. Et cette parole et ce geste constituent la nouvelle alliance dans sa chair et dans son sang. La nouvelle alliance est constituée par l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est instituée par Jésus. C'est Jésus qui institue l'Eucharistie. Ça, personne ne met ça en doute. Les protestants non plus. Les protestants ont une vénération vis-à-vis de la scène, comme les catholiques. La seule différence, faites ceci en mémoire de moi. C'est là-dessus que toute l'herméneutique entre les catholiques et les protestants va changer. C'est pour ça que ceux qui sont dans la perspective avant tout œcuménique mettent tellement l'accent sur « faites ceci en mémoire de moi ». Et c'est intéressant de voir cela. Ça fait partie, si vous voulez, de considérer que l'aspect apologétique de l'œcuménisme l'emporte sur une vision théologique. Alors ils ne s'aperçoivent pas qu'en faisant ça, ils font la même chose que les critiques qu'ils font par rapport aux Îles de Trente. Ça m'a toujours semblé quelque chose de très important à soulever. Ils critiquent le Concile de Trente d'être trop relatif aux protestants, et eux font l'inverse, ils sont donc dans le même genre. Ils regardent ce qu'est commun avec les protestants pour faire à partir de même théologie. Donc les dents des petits-fils en seront agacés. Et on dira, voilà, ils ont fait une mauvaise théologie. Oui, parce qu'on a les deux contraires. Vous ne faites pas une théologie à partir d'un sept contrat. Vous ne faites pas une théologie pour allier ceux qui sont de l'autre côté. Vous faites une théologie en revenant à la source. Et la source est au-delà des catholiques et des protestants, puisque c'est le Christ. Et c'est le Christ lui-même qu'on doit saisir, et qu'on se serve de la tradition de l'Église pour comprendre, mais c'est au Christ qu'on revient. Vous voyez, donc, vouloir mettre, je dis ça, c'est parce que actuellement, c'est très, très poussé. Je me souviens, en cours de théologie qui avait été donné à Fribourg, sur l'Eucharistie, il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, je me souviens très bien que c'était, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont assisté, mais c'était ce point de vue du père Théard, c'était le point de vue du mémorial qui était mis en lumière. Et avant, je me suis demandé pourquoi il fait ça. Parce que c'est le point de vue commun. Et que c'est là où il y a les deux interprétations différentes. Alors on va mettre ça très en lumière, parce que c'est le point de contact œcuménique. Tandis que si je prends le point de vue du Christ, le Christ ne pense pas en premier lieu à l'œcuménisme. Je ne crois pas. Il pense en premier lieu au don d'amour qu'il fait à Marie, qu'il fait à Pierre, qu'il fait aux 12. C'est ça qu'il regarde en premier lieu. Et c'est cela qu'on doit regarder en premier lieu. Puisque nous avons vu un geste, nous devons en comprendre la signification d'après l'intention de celui qui le fait. Et donc, c'est cela qu'on doit regarder, et non pas les discussions qui entourent de ce geste, les différentes herméneutiques qui ont lieu autour de ce geste. Certains le comprennent comme ça, d'autres le comprennent autrement. Eh bien, on va dire, puisque c'est le lieu du litige, c'est ça le point de vue principal. Pas du tout. C'est pas le point de vue principal. Qu'on ait obnubilé l'intention profonde du Christ en regardant ça en opposition, ou qu'on l'ait fait l'inverse, ça, c'est une autre affaire. Quand on est dans la lutte, souvent des choses secondaires passent avant les choses principales. Parce que quand on est dans la lutte, on s'attache à des choses secondaires et on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est revenir à l'attention du Christ. Donc, j'essaie de comprendre le geste du Christ, hein, le geste du Christ réalisant son testament. Et c'est bien dans un geste, c'est bien dans un repas. Et dans ce repas, il donne la nourriture. La nourriture est nouvelle. Et c'est en ce sens que le repas est tout à fait nouveau. Dans l'ancienne alliance, la nourriture n'était pas nouvelle. Dieu avait demandé, prescrit, de prendre tel ou tel aliment. Et ces aliments étaient, par la prière, par les bénédictions, étaient rendus sacrés. Ce qu'il y a de tout à fait particulier dans le mystère de l'Eucharistie, dans la scène, c'est que Jésus lui-même se donne. Ça, c'est tout le réalisme unique de l'Eucharistie. Et c'est quand même ça le point de vue principal. C'est de vouloir montrer par un geste l'intensité de son amour, l'intensité de la communication de son amour à travers un geste. Un geste qui a un réalisme très particulier, puisque c'est le réalisme de l'aliment. On sait très bien que le repas pris avec un ami, c'est quand même quelque chose de très important. Pouvoir prendre un repas avec un ami, c'est une détente, c'est encore beaucoup mieux que pouvoir faire une petite conversation, n'est-ce pas ? Un petit repas particulier, évidemment, qu'on ait le temps, qu'on puisse pouvoir... Vraiment, c'est quelque chose de particulier. À travers un repas, il y a la communication de l'amour. Qu'à travers un repas, le repas lui-même devienne la communication de l'amour. Ce n'est pas se servir d'un repas pour pouvoir parler. C'est déjà très bien. C'est déjà merveilleux, se servir d'un repas pour pouvoir parler. Quand le pape vous invite à sa table et qu'on se sert du repas pour pouvoir parler, c'est mieux que de le voir uniquement dans une audience. Il y a quelque chose de plus intime. Il y a la chaleur communicative, hein, du vin pris ensemble et des pâtes italiennes prises ensemble. Hein. Alors c'est un peu particulier. Alors on se sert du repas pour pouvoir parler plus intimement. Là, il y a quelque chose de plus fort, c'est que la nourriture même de ce repas, c'est le don d'amour que le Christ réalise. Ça, c'est unique. C'est quand même unique, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose de tout à fait nouveau qui doit être compris pour lui-même, parce que c'est unique. Toujours, quand on est en présence de quelque chose d'unique, il ne faut pas chercher de le comprendre à partir des autres choses. Il faut avoir le respect de cette chose unique, de l'originalité de cette chose. Eh bien, je crois que là, on est en face de quelque chose d'original, d'un geste original du Christ. Tous les gestes qui ont été faits avant se terminent à celui-là, mais celui-là a quelque chose d'original. La multiplication des pains, très bien. Mais ce n'est pas ça qui va me faire comprendre l'Eucharistie. L'Eucharistie a quelque chose d'unique. Donc, on est en présence d'un geste qui va prendre une valeur ultime. Puisque ce geste est le dernier. Valeur de testament. C'est le dernier. Dernier repas, dernier geste. Et Jésus montre bien que c'est le dernier repas, le dernier geste. Un dernier geste, un dernier repas qui se fait à la suite de la Pâque ancienne pour montrer le renouvellement complet de tout le reste. La Pâque ancienne disparaît en face de l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie prend cette valeur ultime et dernière. Et Jésus a voulu que ce soit comme ça. Il aurait pu très bien faire la Pâque indépendamment de la Pâque ancienne. Non, il a voulu. Alors c'est là, vous voyez, il faudrait... Et ce serait très intéressant. Alors là, il y a une étude d'ordre phénoménologique qui serait intéressante à faire. D'après les récits, si on a le temps, on va le faire une fois, parce que c'est comme ça vaut la peine d'essayer ensemble de faire une théologie de l'Eucharistie à partir des récits même de la scène. Alors c'est d'ordre, c'est une, vous voyez, c'est descriptif. Mais on doit le faire, étant donné qu'on est on a le geste. Hein. Les gestes, la valeur spéculative du geste est faible. Et donc, lorsqu'il s'agit des gestes, la valeur d'une philosophie phénoménologique est beaucoup plus grande. Vous voyez, la phénoménologie prend beaucoup plus d'importance dans les gestes, dans la corporéité et dans ce que représentent les gestes que lorsqu'il s'agit uniquement de la parole. Et c'est, je crois, ce qu'il faut essayer de comprendre, de voir dans quelle mesure une philosophie peut se servir de la phénoménologie. Dans quelle mesure une théologie peut se servir de la phénoménologie. Donc, c'est peut-être là où on doit le saisir. C'est à propos de la philosophie du geste. Je vous ai dit, il y a tout l'aspect descriptif du geste qui est très important. Alors, il faut d'abord donc comprendre tout le contexte de ce repas, en continuité avec le repas pascal avant, comprendre pourquoi cette continuité, comment se fait cette continuité, et le caractère propre et l'originalité propre du geste du Christ qui se sert du pain et du vin pour se donner. Alors pourquoi le pain et le vin? C'est là, puisque tout est ordonné selon un ordre de législateur, donc un ordre de sagesse. Alors pourquoi le pain et le vin? Le symbolisme du pain et du vin. Bon, nous savons la signification de ce symbolisme du pain et du vin, il suffit de regarder à travers toute l'écriture, la signification du pain et la signification du vin. Et je prends ça exprès à travers l'écriture. Je peux aussi prendre la signification du pain et du vin à travers ma vie humaine et la vie des hommes. Et la vie des hommes au cours des siècles. Comprendre la différence que représente ce symbolisme. Tout ça est impliqué dans ce fait que ce n'est pas une parole seulement, mais que c'est un geste qui se sert d'une matière extrinsèque et que la parole donne à cette matière une nouvelle signification. Ceci est mon corps. Ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Et donc la parole donne une nouvelle signification à la matière, pas au geste. Le geste unit les deux. Et le geste fait l'unité des deux. C'est, Jésus n'a pas deux gestes différents. Non, c'est le même geste. Et le geste continue. Et la continuité, vous voyez, de ce passage du pain au corps du Christ, c'est le geste du Christ qui fait la continuité. Jésus prend le pain, puis le donne. Donc c'est le geste qui fait la continuité. C'est très, très, c'est très important de voir ça. La continuité, c'est entre le point de vue avant la consécration et après la consécration, c'est le geste du Christ. Donc le geste prend une importance très grande pour maintenir cette unité de la matière du sacrement et de la signification profonde du sacrement. La parole est là pour que nous comprenions le passage. Je crois qu'il y a tous ces éléments qu'il faut essayer de saisir. Alors, dans une description phénoménologique, nous essaierions de saisir tous les éléments. On peut essayer, si vous voulez, de le faire, et puis vous continuerez. Parce que c'est intéressant de le faire et d'arriver à essayer de faire soi-même cela. Alors, je dis, premièrement, je souligne simplement, on reprend les différents éléments, puis vous verrez s'il y en a d'autres. L'ordre. L'ordre est important. Pourquoi après la Pâque ancienne? Descriptif, hein, pas plus, on n'analyse pas, on va analyser après. Mais d'abord descriptif, l'ordre, les deux Pâques. Il faut en réalité une Pâque, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est donc la Pâque ancienne et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui a une signification particulière. Donc, deuxièmement, après la vue l'ordre, le geste. Le geste du Christ qui enveloppe tout. Il prend dans ses mains le pain. Il le rompit. et puis il le donna.
Donc les trois gestes à l'égard du pain. Alors, rompre, il le prend, prendre, rompre et donner. Le geste du Christ qui donc va impliquer le point de vue du pain, puis parole. La parole que Jésus dit lui-même par rapport au pain, donc le nouveau regard de Jésus à l'égard de ce pain. Ceci est mon corps. C'est le regard du Christ par rapport à ça, qui vient s'ajouter et qui vient donner alors au pain une nouvelle signification. Vous voyez, les deux significations, ça vous rappelle quelque chose au point de vue théologique. Hein. Certains théologiens voudraient remplacer transsubstantiation par transsignification. C'est très juste au niveau théologique, c'est très très juste. Ça n'a pas été condamné, on peut le dire. Parce que si je décris, je mettrai là tout de suite les deux significations du pain. La première signification du pain, la seconde signification du pain. Bon, la même chose par rapport au vin. Alors, pourquoi ces deux? Ces deux significations. Pourquoi les deux éléments, le pain et le vin? De gestes successifs. Troisièmement, faites ceci en mémoire de moi. Alors, oui, faites ceci en mémoire de moi. On dira exactement comme la Pâque ancienne était le mémorial du passé et du passage par rapport à ce que représentait le passage du pays d'Égypte. En la terre promise, de même nouveau mémorial. Vous comprenez que c'est très dangereux de faire ça. Parce que ça prend une signification tout à fait différente. Le premier mémorial, c'est Dieu qui l'avait demandé, c'est très vrai. Dieu avait demandé qu'à chaque année, tel mois, il y ait le mémorial de ce passage. Le mémorial d'un fait. Ici, Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est encore un mémorial que Jésus établit. Mais ce mémorial n'a pas la même valeur dans l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Alors on comprend très bien que si on comprend la parole du Christ en fonction de l'Ancien Testament, on aboutit à la position protestante. Et c'est très simple de comprendre la position protestante. La position protestante, c'est tout simplement de comprendre le mémorial « Faites ceci en mémoire de moi » comprendre cette parole de Jésus en fonction du premier mémorial de l'Ancien Testament. Alors, avons-nous le droit de faire ça? C'est là où la discussion peut jouer. Avons-nous le droit de comprendre les paroles du Christ uniquement en fonction de l'Ancien Testament? Non. Les paroles du Christ ont une signification qui est propre. Et donc, je dois comprendre d'après les intentions du Christ. Alors, ça, c'est important. Et ça, ce n'est pas de l'apologétique, c'est tout simplement revenir à la source, c'est-à-dire l'intention. Si j'étudie un geste, le geste, nous l'avons vu, prend toute sa signification par l'intention. Et donc l'intention du Christ, vous voyez, là c'est une phénoménologie plus poussée. Ce n'est pas simplement le point de vue des regards, mais je dois remonter à l'intention du Christ. Le Christ législateur, en tant qu'il est législateur, quelle est son intention? Quand il prend le pain, quand il prend le vin. Pourquoi prend-il le pain et pourquoi prend-il le vin successivement? Pourquoi les deux? Et pourquoi, troisième moment, faites ceci en mémoire de moi. Donc ceci, on regarde l'intention aussi du législateur. Donc dans l'intention du législateur, il y a trois choses. Hein, trois choses dans l'intention du législateur. Il y a le point de vue du pain, le point de vue du vin, et le point de vue, faites ceci en mémoire de moi. Et je crois que ce sont les trois intentions du législateur, comme législateur. On doit regarder cela. Vous voyez bien, hein, ça que je veux regarder avec vous. Hein. Vous voyez bien que si je regarde la scène, l'institution de l'Eucharistie, je vois que le geste
du Christ, et l'intention du Christ dans son geste est capitale. Je ne peux pas le nier, ça. C'est vraiment le geste du Christ comme législateur par rapport au pain, par rapport au vin, par rapport au « faites ceci en mémoire de moi ». Jésus est présent au milieu des apôtres, il réalise ce geste. Et c'est ce geste qui prend toute son attention, qui prend qui nous donne, si vous voulez, l'interprétation dernière. Si donc je veux regarder ensuite le sacrement de l'Eucharistie, puis-je, je dis bien, puis-je séparer le sacrement de l'Eucharistie de la scène? Non. Puisque l'Église elle-même nous dit que le prêtre, quand il consacre, agit in persona Christi. Et le Saint-Père a insisté beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'enfin, c'est ça qui va montrer comment le sacrement est assumé par le geste du Christ. Enfin, puisque j'essaie de comprendre, je reviens pour que vous essayiez de saisir. J'essaie de comprendre le passage du geste du Christ au sacrement. Ce que nous appelons nous le sacrement de l'Eucharistie. Comment il est vécu dans l'Église? Quel est le passage entre les deux? Quel est le lien entre les deux? Et je le fais pour la clé de voûte, pour l'Eucharistie. Si une fois que j'ai fait pour l'Eucharistie, je n'aurai plus qu'à le refaire pour tous les autres. Oui. Pour reprendre comment la théologie du sacrement doit être approfondie par une théologie du geste sacré, du geste religieux, du geste du Fils de Dieu, d'un geste qui réalise une nouvelle alliance, donc un geste religieux, mais c'est un geste. Alors, vous voyez, c'est ça que je voudrais que vous compreniez. L'Eucharistie tel qu'il est réalisé actuellement dans l'Église et ce que nous venons de dire de l'institution de l'Eucharistie. Dans l'institution de l'Eucharistie, je vois que le geste du Christ est capital. Le geste du Christ commande l'ordre. Le geste du Christ regarde le pain, regarde le vin. Et l'intention du Christ dans son geste est unie par cette intention du geste du Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez ? Bon, alors, une fois qu'on saisit que l'Eucharistie, sacrement, tel qu'il nous est donné aujourd'hui, hein, avec sa liturgie propre. Nous y reviendrons ensuite. Mais le point de vue de l'Eucharistie, et l'Église nous dit que ce qu'il y a d'essentiel dans l'Eucharistie, ce qu'il y a d'essentiel, d'invariable dans l'Eucharistie, qui n'a pas changé depuis le début, et depuis que saint Paul nous dit ce qu'était le sacrement, c'est la double consécration. Les grands théologiens du XVIe siècle, donc après la crise de la Réforme, Jean de Saint-Thomas, les grands théologiens du XVIe et XVIIe siècle n'hésitent pas de dire que le sacrement de l'Eucharistie, donc la messe, c'est la double consécration. Je sais que c'est repris aujourd'hui, c'est par rapport aux orthodoxes, et ça c'est un autre problème, hein. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est de comprendre la continuité de l'Église. Et ça a été dit encore par Pie XII au moment de la guerre. Pie XII a donné l'autorisation à des prêtres qui étaient en captivité de dire la messe en disant uniquement la double consécration. Quand ils étaient, vous savez, tous les jours, ça durait assez longtemps, l'appel le matin. Les plus jeunes étaient là. Ben, ça durait 2 heures. Alors, pendant les 2 heures, il y avait le temps de consacrer et donner la Sainte Communion à tous ceux qui le voulaient. Il la faisait discrètement, vous ne voyez pas, parce que les gardes ne voyaient même pas. C'était fait avec... Et le Saint-Père avait permis donc la double consécration. La messe se réduisait à cela. Et ça, c'est très important. C'est très important de toujours rappeler ça aux fidèles, surtout aujourd'hui, avec les querelles liturgiques, et de montrer que la veille, et ça c'est ancien, que Pie XII l'a dit, alors une fois qu'on dit Pie XII l'a dit, tout le monde est à genoux. Alors, ça va très bien. Alors, la double consécration, puisque la tradition s'arrête avec Pie XII, hein, pour certains. Alors il faut bien comprendre que c'est dans la tradition. La double consécration, que tout le sacrifice de la messe, ça ramène à ça. Tout le reste peut changer. Il y a une chose qui ne peut pas changer, c'est le noyau. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai, c'est ça le noyau. La double consécration du Christ. Avec, faites ceci en mémoire de moi. Donc au fond, les trois intentions sont présentes dans l'Eucharistie. C'est simplifié, c'est schématisé, c'est bien évident, c'est pas dit de même. Mais au fond, c'est l'essentiel, il n'y a rien d'autre. Donc, on est en présence du geste du Christ à la scène qui continue. Et c'est pour ça que l'Église dit que le prêtre, en consacrant, agit in persona Christi. Et c'est intéressant l'expression de persona Christi. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas pour sauvegarder le geste? Le Saint-Père ne le dit pas, il n'a pas dit jusque maintenant. Mais il a dit dans une des lettres qu'il a écrites au prêtre le jeudi saint, le Saint-Père actuel. Il a insisté énormément sur l'expression, donc. Une persona Christi. Donc, on agit dans la personne du Christ. Et le Saint-Père dit qu'il ne faut pas le ramener au nom du Christ. C'est-à-dire simplement, j'agis de la part du Christ, au nom du Christ. Il y a quelque chose de plus, une persona Christi, ça veut dire qu'on agit dans la personne du Christ. Alors, agir dans la personne du Christ, ça veut dire que c'est le geste du Christ qui continue. Je crois que c'est ça. Parce que si c'était que la parole, je ne dis pas quand je lis l'Évangile que j'agis une persona Christi. Je donne la parole du Christ. La parole n'a pas besoin d'être in persona. Et le geste a besoin d'être in persona. Alors, c'est ça qu'il faudrait étudier. Parce qu'alors, ça nous donnerait la clé. Vous voyez, de voir comment, de fait, l'Eucharistie, sacrement de l'Eucharistie, c'est bien le geste du Christ, de la scène, avec les intentions propres du Christ de la scène, qui se continuent. Et c'est pour ça que l'Église dit « in persona Christi ». Alors, essayons de comprendre ça, parce que c'est le point important, vous voyez, point délicat et important à saisir. Et alors ça donne une importance beaucoup plus grande à ces affirmations qu'on répète sans expliquer. Le Saint-Père a raison de les répéter. C'est les théologiens qui doivent les expliquer. C'est les théologiens. Les théologiens n'ont pas beaucoup expliqué ça. J'ai jamais vu une explication vraiment correcte. Et c'est peut-être parce qu'on a oublié le fondement. On n'a pas assez vu la différence entre la transmission de la parole et la transmission du geste. Transmettre la parole, c'est de l'ordre de l'intentionnalité, de la signification. Et puis c'est tout. Je transmets une parole. Le magnétophone transmet une parole. Avec la tonalité plus ou moins fidèle. Haute fidélité. Alors, haute fidélité, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est transmettre la parole avec toutes les modulations, toutes les finesses, etc. Ça dépend de celui qui le prend, tu vois, et qui est là plus ou moins attentif. Alors c'est haute fidélité. Alors on transmet la parole. Transmettre le geste, c'est pas uniquement au niveau de l'intentionnalité. Le geste est trop lié à la présence du corps. Le geste, c'est trop lié à la présence du corps. Le geste dans sa réalité, dans son réalisme. Alors, est-ce que c'est à cause de ça qu'on ne peut pas dire seulement on agit de la part de quelqu'un, je vous transmets ce message de la part d'un tel. Tout à fait normal. Quand je lis l'Évangile, je transmets la parole du Christ de la part du Christ. De la part du Christ. Et quand, de fait, le prêtre consacre,
Il consacre in persona Christi. Il consacre revêtu de la personne du Christ. Il consacre pris, saisi par la présence du Christ. Dans la foi, c'est sûr. Mais il consacre de cette manière. Donc, c'est vraiment l'exigence du geste. Le geste étant beaucoup plus lié à la personne, à l'individualité, à tout l'aspect affectif et à tout l'aspect d'efficacité. Alors c'est pour ça, il me semble qu'il y a ce point de vue de réalisme particulier du geste qui n'est pas au sens tout à fait rigoureux transmis, mais qui est présent. Il n'y a pas une transmission du geste, mais une présence du geste. Tandis qu'il y a une transmission de la parole. Je transmets la parole, parce que c'est l'intentionnalité. Alors ça peut se transmettre. Tandis que le geste, ça ne peut pas se transmettre. C'est trop lié à la personne et à l'individualité de la personne. Alors il y a cette chose mystérieuse, c'est là où on touche quelque chose de très très grand au point de vue institution de l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus, en disant ça, veut que son geste soit actuellement présent dans l'Église. Donc il faut qu'il soit actuellement présent dans sa propre personne, dans sa propre individualité, et qu'il agisse de cette manière-là, à travers un homme, en se servant d'un homme. Lui, le Christ se sert, mais in persona Christi. Alors, vous voyez, c'est ce qui me semble, hein. Là, il faut y réfléchir, c'est ce qui me semble qu'on peut dire que par rapport à l'Eucharistie, puisque c'est la clé, c'est lui qui va nous, c'est le mystère de l'Eucharistie qui va nous permettre de comprendre le passage du geste au sacrement. Alors, ça fait comprendre qu'au fond, le sacrement, c'est pas seulement le signe et puis les paroles. C'est vrai, c'est ça, le contenu du sacrement. Le contenu du sacrement, c'est le signe, un signe efficace, et puis les paroles. C'est très vrai. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a le geste du Christ. Et le geste du Christ enveloppe et fait l'unité. Et dans le geste, puisque c'est un geste, il y a l'intention. Et alors c'est pour ça que le problème est si délicat quand il s'agit de la validité du sacrement. On dit, ah, il faut l'intention. Alors on a l'impression que l'intention vient se surajouter au sacrement. Alors que si vous prenez le point de vue du sacrement, c'est-à-dire en comprenant le sacrement signe ou symbole, peu importe, et instrument. Et que ceci, c'est très vrai, je regarde là le contenu, simplement le contenu intelligible. Nous y reviendrons, hein, parce que c'est important, il ne faut pas le lâcher. C'est ça qu'a regardé la théologie scientifique. Certainement, on ne regarde que ça. Et vous comprenez que cela, c'est le contenu d'un geste. Et dans le geste est impliquée une intention. Et donc, par le geste, l'intention enveloppe le contenu. Et c'est plus du tout quelque chose d'extérieur. Parce que ce signe et cet instrument n'existent que grâce au geste et à l'intention du geste. Alors, ça redonne une valeur primordiale au geste et à l'intention. Ce qui, je crois, est vraiment ce que nous devons regarder. Alors, si vous avez des questions, hein, puisque nous cherchons ensemble, hein, si vous avez des questions là-dessus, posez-les, prenez un petit papier, pour essayer de progresser, pour essayer d'entrer de plus en plus dans ce que représente ce mystère des sacrements tel qu'on doit essayer de le comprendre dans l'Église aujourd'hui.